RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Et bienvenue dans la seconde partie de Je pense, donc j'agis. On vient de parler des cartes dans la première partie. On va s'intéresser jusqu'à 11h aux sentiers, les sentiers de randonnée. Il y a des cartes également, mais en tout cas des sentiers qui sont entretenus souvent par des associations. On va pouvoir en discuter. Des associations qui organisent également ce qu'on appelle le balisage des sentiers qui permet de mieux se retrouver. Vous êtes les bienvenus, vous le savez, pour participer à l'émission. Dites-nous si vous avez déjà participé à l'entretien de sentiers de randonnée ou au balisage de sentiers. Est-ce que ça vous permet de vous repérer plus facilement lors de randonnées? Est-ce que vous avez l'impression que les sentiers sont bien entretenus? Vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23, 04 72 38 20 23. Vos messages par mail à direct@rcf.fr et puis dans le groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Jusqu'à 11h, Je pense, donc j'agis sur RCF.
Et pour discuter des sentiers avec nous jusqu'à 11h, on a le plaisir d'accueillir trois invités. Bonjour Jacques Pernin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct sur RCF. Vous êtes le président de l'association Sentiers Nédance. Ça se prononce comme ça, je me trompe pas?
Non, vous enlevez le S. Sentiers Nédance, ça va.
Un sentier Nédance, pardonnez-moi. Vous êtes où en France?
Alors, on est à la frontière suisse, à côté de Saint-Julien.
Ouais, une association qui existe en tout cas depuis quelques années et qui agit donc pour à la fois proposer des itinéraires de randonnée et puis surtout pour les entretenir. Ça, c'était l'objectif de l'association dès sa création?
Oui, tout à fait. On a constaté, après avoir fait créer des nouveaux sentiers ou des refaire des sentiers par les sociétés d'autoroutes qui avaient un peu massacré les choses dans les années 2010. On s'est aperçu après les travaux que plusieurs mois après, enfin je me suis aperçu que la végétation reprenait ses droits et finalement tout le travail qui avait été financé et fait était foutu, donc c'est ce qui nous a donné l'idée de démarrer cette association.
Eh ben, on va pouvoir en discuter dans cette émission. Merci beaucoup Jacques Pernin d'être avec nous. Bonjour Frédéric Urien.
Bonjour Melchior.
Vous êtes le président de l'association Loup Vionnet. Alors je crois que vous êtes actuellement d'ailleurs sur un sentier.
Ben, j'ai failli et puis on annonce de très gros orages, donc j'ai renoncé à aller sur le terrain et donc je suis en direct depuis chez moi.
Bon, en tout cas, on est très heureux de vous entendre pour parler de l'association Loup Vionnet. Alors pareil, vous êtes situé où, vous, en France? Vous êtes en Haute-Savoie, je crois?
Oui, également, nous, on est au-dessus des Vions. Donc c'est le nord des Alpes, frontière avec la Suisse. Et c'est des massifs qui culminent à 2400 mètres d'altitude. Mais le point bas, c'est le lac du Léman, la petite mer intérieure. Et on est à 370 mètres d'altitude à ce moment-là.
Voilà, donc c'est quand même un gros territoire avec une particularité pour l'association, c'est d'être en lien avec les collectivités sur le territoire, hein, dans leurs différents projets et notamment l'entretien des sentiers.
Alors nous, on ne fait que ça, on fait que l'entretien des sentiers et on a une mission qui nous est confiée par la communauté de communes locales. Et habituellement, oui, c'est les communes qui se chargent de ces missions, de ces travaux. Et c'est le département qui est responsable des itinéraires de randonnée au niveau national. Hein. Donc c'est sa compétence. Et localement, ils ont décidé de confier ça à une association parce que voilà, on existe et qu'on fait bien le travail.
Eh bien, merci beaucoup Frédéric Urien d'être avec nous dans cette émission. Troisième et dernière invitée, c'est vous Jean-Claude Marie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur RCF. Vous êtes le vice-président de la Fédération française de la randonnée pédestre. Vous représentez les différentes antennes locales, si on peut dire, hein, sur la randonnée et notamment ce qu'on appelle les GR. Voilà, ce qui est une marque, je crois, déposée par la fédération depuis déjà de nombreuses années, et l'entretien des sentiers, qui est un sujet qui est important pour vous, pour la fédération.
C'est l'ADN de notre fédération. J'ajouterais que nous avons 115 comités départementaux. On est répartis sur l'ensemble du territoire et vraiment notre ADN, c'est les GR et les GR de pays. Avec le fameux balisage blanc et rouge ou jaune et rouge, pas toujours connu suffisamment du grand public, mais quand même qui est en fait un fer de lance. Ça représente à peu près 115 000 kilomètres en France sur 250 000 à peu près kilomètres de sentiers de randonnée que nous avons dans nos tablettes. Mmh. Voilà, ça vous donne déjà une petite idée de l'importance de la mission que nous avons.
C'est déjà pas mal. Alors il y a vraiment des missions bénévolat pardon qu'on peut faire au sein de la fédération pour être baliseur ou collecteur avec une carte. On aura l'occasion d'en parler. Mais dans quel état sont les sentiers en France? Est-ce que quand même les sentiers sont bien entretenus?
Alors C'est comme dans tout, il faut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Alors j'ai envie de dire qu'il est presque à moitié plein. Ça veut dire que en fait, bien sûr, tout le monde n'est pas parfait. Donc on va trouver de ci de là des anomalies, mais il faut quand même savoir que nous avons actuellement 8500 bénévoles au niveau national, qui sont répartis dans chaque comité, à peu près en moyenne 100 bénévoles par comité, donc et qui ont une partie de sentiers GR, GRP, parfois DPR quand les collectivités nous confient le balisage, et en fait et qui ils doivent aller chaque année faire l'entretien, débroussailler, refaire les peintures, etc., selon les normes et la charte de balisage que nous avons mise en place et qui est la charte officielle de tous les balisages en France.
Merci Jean-Claude Marie de nous accompagner dans cette émission. Voilà, trois invités. Je rappelle également que vous avez toutes et tous la parole pour participer à l'émission. Dites-nous si vous avez déjà participé à l'entretien de sentiers de randonnée ou au balisage de sentiers. Est-ce que ça vous permet vraiment de vous repérer beaucoup plus facilement quand vous faites des randonnées? Et puis, parlez-nous un peu de l'état de vos sentiers proches de chez vous, s'ils sont plutôt bien entretenus ou pas, s'il y aurait besoin peut-être d'un petit coup de débroussaillage. 04 72 38 20 23 pour venir à l'antenne, 04 72 38 20 23, vos messages par mail à direct@rcf.fr et dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Jacques Pernin, est-ce que c'est compliqué de construire un itinéraire de randonnée?
C'est pas compliqué, c'est long, parce que je peux faire déjà une différence fondamentale avec mes deux collègues invités que je salue au passage. Nous, on construit, on balise et on entretient. Et disons que ces premières années ont été plutôt des phases de construction, parce qu'on a tout créé de A à Z. Une autre différence fondamentale, c'est qu'on n'est que 29 sociétaires, oui, tous bénévoles et tous retraités quasiment, à part une. Et c'est vrai que on travaille localement, on travaille dans notre commune principalement, mais aussi dans les quatre communes qui entourent la commune de Nédan. Et nous, on en est à 20 km actuellement de créer balisé. Et on va mettre en service cette année deux autres itinéraires qui sont de 11 et 14 km. Et on a deux autres projets encore pour descendre plus sur la commune de Saint-Julien. Mais disons que c'est long, parce qu'il faut travailler avec les communes. Nous, tout le matériel est financé et payé par les communes. Oui. Par contre, on s'occupe de tout, c'est-à-dire on leur monte le projet, on va leur vendre le projet et ils nous payent le matériel, parce qu'il devient du matériel communal, en fait. C'est du matériel communal. Et donc, après, on s'occupe de tout, de A à Z. Mmh. Mais non, c'est pas compliqué quand il y a la bonne volonté des amis qui font partie de l'association. Et puis, on prend le temps qu'il faut. Oui. Il y a des petits soucis avec les riverains ou avec des propriétaires qu'il faut lever. Et des fois, ça bloque les projets. Ben, on est patient, on attend, on fait ce qu'il faut avec les communes. Et ça se réalise gentiment.
Jean-Claude Marie, est-ce qu'au sein de la fédération, vous accompagnez tous ces acteurs locaux qui œuvrent pour à la fois construire et entretenir les sentiers?
Alors ça fait partie aussi de notre ADN, parce qu'en fait le balisage en lui-même, c'est vraiment qu'un aspect des choses, mais ce qui est important de savoir, c'est que la construction d'un GR, d'un GRP ou des PR, il y a un certain nombre de critères extrêmement précis en matière de sécurité, en matière d'intérêt, en matière de conception, et il est important d'avoir en fait une organisation qui soit de qualité pour au final avoir des sentiers qui répondent vraiment à un besoin. C'est des sentiers qui sont structurants au niveau régional, local, mais aussi au niveau national. Donc ce qui est important de bien comprendre, c'est que nous avons un rôle de coordination et d'animation du territoire en liaison avec les collectivités. C'est pas toujours très facile, mais en fait, ça, c'est ce qui permet d'avoir une organisation des sentiers, un maillage intéressant et à peu près réparti sur l'ensemble du territoire. Et ça, ça fait partie de notre ADN. Alors, le balisage est vraiment qu'un aspect des choses.
Frédéric Urien, pour l'association Louvionnais, on le rappelle, vous êtes vraiment en lien avec les collectivités, c'est d'ailleurs vraiment au cœur de l'association. Les collectivités qui ont des besoins peut-être différents sur à la fois la construction des itinéraires ou plutôt l'entretien?
En fait, les échanges, ils ont lieu dans les deux sens. Et même, on a des échanges avec la fédération ou d'autres fédérations. Par exemple, alors c'est un problème local, mais on a un chemin qui s'appelle le littoral du Léman, et donc qui essaie de permettre aux personnes de circuler au plus près du lac. Et la fédération avait réussi à faire un itinéraire, mais qui n'allait pas jusqu'en Suisse, il manquait une vingtaine de kilomètres. Et donc, c'est les bénévoles de l'association qui ont contacté les collectivités, parce qu'il y a des terrains, voilà, il fallait obtenir les autorisations sur les terrains publics, il fallait obtenir les financements, mais aussi contacter les propriétaires privés pour avoir les autorisations. Et on a construit les 10, 15, 20 kilomètres qui manquaient pour rejoindre la Suisse. Et ça s'est fait avec des travaux à la mini-pelle, et puis parfois la mini-pelle ne passait pas parce que c'était vraiment trop escarpé, trop rocheux, et on fait appel à toutes les associations, dont les associations de la Fédération de randonnée, et on fait des cohortes de personnes qui, à la pioche, créent l'assise du chemin. Et c'est des choses qu'on fait comme ça assez régulièrement depuis une vingtaine d'années.
Ouais, et ça fonctionne bien.
Et ça fonctionne bien. Et ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, on est bien implanté, ce qui fait que les gens nous sollicitent quand il y a un problème. La fédération nous appelle en disant « Ah, à tel endroit, il faudrait que vous entreteniez, on a une fête, ou on a un nouveau topo-kit qui sort et on aurait besoin qu'il soit en état, et on va y aller même si la collectivité ne finance pas l'entretien. » Et puis la collectivité, effectivement, elle a défini 500 km de chemin, elle nous dit « Cela, vous les entretenez, on vous donne les moyens pour le faire, et on le fait le plus sérieusement possible. » Mais ça ne nous empêche pas de travailler pour d'autres besoins, ou une commune qui aurait localement besoin qu'on intervienne pour faire quelque chose, on le fera aussi.
Vous avez peut-être entendu une partie de la première partie de l'émission, justement, où on parlait de la cartographie. Est-ce que tous les sentiers de randonnée sur votre territoire, Jacques Pernin, sont cartographiés?
Oui, sur notre site, d'ailleurs, on trouve toutes ces informations. On a créé, donc, chaque fois qu'en général, on a créé des boucles, nous, des itinéraires en boucle, et à chaque itinéraire correspond une fiche de randonnée papier qui est sous forme de format DL, qui se retrouve un peu à l'office de tourisme. On a un magnifique camping à Nédan qui amène beaucoup de monde l'été, qui sont les principaux clients utilisateurs de nos sentiers. Mmh. Et puis sur notre site, on trouve soit à télécharger, soit même à utiliser sur smartphone nos itinéraires.
Ouais. Jean-Claude Marie, c'est important aussi pour la Fédération française de la randonnée pédestre d'avoir comme ça des cartes, des randonnées pour pas se perdre, enfin je veux dire en tout cas sur l'organisation plutôt, pas sur les randonnées en elles-mêmes.
Disons qu'en fait nous avons des accords avec IGN qui récupère périodiquement tous les tracés qu'on va numériser sur le terrain, etc. Sur, quand vous voyez qu'il y a à peu près 250 000 kilomètres, vous imaginez qu'il y a, un certain nombre de gens qui sont au travail pour faire des relevés. Tous ces relevés sont transférés à IGN qui met à jour ces cartes. Sur la base de nos données. Alors, mais il y a tellement de sentiers partout. D'ailleurs, parfois des sentiers de qualité, parfois des sentiers qui sont autoproclamés par des personnes qui disent ah ben c'est intéressant d'aller à tel endroit, etc. Et ça crée d'ailleurs d'autres problèmes qui sont liés après ce que je voudrais dire, c'est que nous avons récemment mis à jour une enquête sur le nombre de randonneurs nouveaux qu'il y a en France.
Oui.
Et à fin 2021, nous avons été surpris de constater qu'il y avait 28 millions de randonneurs qui se déclaraient randonneurs. Alors, ils n'ont pas tous un sac à dos de 10 kilos derrière le dos, mais en fait, la crise Covid a fait que, en fait, les gens se sont rués sur les parcours et on est confronté aujourd'hui à des problèmes de surfréquentation à certains endroits, des sentiers qui mériteraient d'être pratiqués et qui ne sont pas connus, d'autres sentiers qui sont ultra connus et qui ne sont que tout le monde va sur ces sentiers parce qu'ils sont déjà très connus. Donc il y a un problème de rééquilibrage et en fait nous avons une mission qui nous a été donnée au niveau national par l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour essayer de réfléchir à une meilleure répartition de ce flux de touristes qu'il faut effectivement peut-être canaliser au travers d'un maillage correct, quoi.
Marie-Françoise nous a rejoint au 04 72 38 20 23 depuis La Rochelle. Bonjour Marie-Françoise.
Bonjour.
On vous écoute ?
Oui, eh bien, je souhaiterais simplement que l'on se souviennent de Claude Normand. Claude Normand est un ami de toujours. Quand nous étions avec mon mari et qu'on allait se promener avec lui, nous étions tout juste fiancés, nous nous promenions avec son épouse et lui, avec des petits pots de peinture blancs et rouges. C'était années 70. Et ce Claude Normand a retravailler sur des sentiers pour qu'ils soient remarqués.
Oui.
Et il a fait quasiment toutes les cartes de DGR de la Charente-Maritime et de l'île de Ré. Et vraiment, là maintenant, il ne peut plus parce qu'il a des soucis de santé. Mais vraiment, s'il y a quelqu'un qui a donné et qui a beaucoup travaillé pour les GR, en tout cas de la région, c'est Claude Normand. Voilà, je voulais simplement dire ça.
Merci beaucoup.
Il a également fait un sentier pour rejoindre toutes les petites églises romanes de la région.
Merci beaucoup Marie-Françoise pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Jean-Claude Marie, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont marqué un petit peu certains territoires pour leur engagement.
Oui, alors je voudrais citer un exemple tout récent. En fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler du nouveau GR 169 qui entoure la métropole de Lyon, qui est un GR qui fait 170 kilomètres, pour pas dire 169, voilà, et qui, en fait, c'est la découverte de Lyon autour des forts. Et en fait, il y a une équipe depuis 2 ans qui pratiquement parcourt tous les sentiers dans un sens, dans l'autre, etc., pour arriver à constituer un GR autour de Lyon, dans des endroits avec des pépites au niveau patrimoine, au niveau nature. On se croirait vraiment pas, je disais, dans une grande métropole, etc. Avec, je dirais, pour ça représentait 2 ans de travail. Pratiquement, les Lyonnais peuvent avoir accès au travers de 15 gares, 8 arrêts de train, 8 arrêts de tram et une soixantaine d'arrêts de bus. Ils peuvent faire un GR en partant de chez eux.
Oui.
Et donc ça, on peut imaginer que ça représente un gros travail. Et puis surtout, que il y a 18 personnes qui font ça. Voilà, je parle pas des baliseurs, mais simplement des gens qui sont allés sur le terrain pour faire des propositions, des contre-propositions, des photos, etc. Et en fait, c'est vraiment des passionnés. Et je reconnais tout à fait le témoignage de la dame qui vient de s'exprimer. Oui. Au travers de l'expérience qui est toute récente sur Lyon Métropole.
Bon, on va continuer d'en parler jusqu'à 11h dans cette émission avec vous trois, Jacques Pernin, Frédéric Urien et Jean-Claude Marie. On est sur les sentiers de randonnée ce matin et on essaie de voir comment on peut les entretenir, comment les associations agissent en ce sens, comment le balisage également est organisé, ça c'est un vrai sujet. Et puis vous venez à l'antenne également au 04 72 38 20 23 pour apporter vos réactions, vos témoignages. Dites-nous si vous avez déjà pu participer à l'entretien de certains sentiers de randonnée ou au balisage. Est-ce que vous êtes engagé dans une association qui parfois organise des randonnées ou qui travaille sur ces questions d'entretien? On vous attend au 04 72 38 20 23. Mais tout de suite, on va faire un petit pas de côté avec notre chroniqueuse. Et nous retrouvons pour la dernière fois cette année Véronique Durand, rédactrice en chef adjointe au magazine La Vie. Bonjour Véronique.
Bonjour Melchior et bonjour à tous.
Alors dès jeudi et jusqu'au 4 août, La Vie propose des rendez-vous d'été. Le magazine nous emmènera à la découverte de personnes qui font de l'accueil leur moteur. Nous les retrouverons dans une rubrique qui s'intitule « Vous les rencontrerez cet été ». Quel en est l'esprit de cette rubrique ?
Alors pour l'été, nous avons choisi de mettre en lumière des personnes qui agissent pour d'autres avec ce point commun, le goût de l'accueil, et qu'elles déclinent à leur manière et selon leur lieu de vie. Que ce soit dans un centre spirituel voué au silence, dans un refuge de montagne qui accueille le randonneur, ou encore sur une étape du chemin de Saint-Jacques, ou à Lourdes, ou sur une île. Et vous les croiserez peut-être sur la route de vos vacances. Leur témoignage est très riche. Ils nous disent ce que signifie accueillir l'autre, c'est-à-dire se mettre au service, se tenir prêt à répondre à l'imprévu, savoir ouvrir sa porte, se laisser déranger. Et pour le vivre, il faut de l'écoute et surtout avoir le goût de l'autre. Ce sont là de très belles rencontres.
Alors pour ce premier rendez-vous de l'été, vous êtes allé en Isère, près de Grenoble, dans le centre spirituel de Biviers, qui accueille en toute saison des retraitants. Et on découvre une personne qui s'appelle Claire Loisel. Qui est-elle ?
Alors Claire a 40 ans et elle est résidente bénévole au centre Saint-Hugues depuis 6 mois. L'accueil est au cœur de sa mission, elle habite sur place avec son mari et elle œuvre au quotidien au bien-être des personnes qui viennent se poser au centre. Elle contribue à faciliter notamment le travail des bénévoles, qui sont au nombre de 400 et qui sont eux-mêmes au service des retraitants et des animateurs ou accompagnateurs spirituels.
Et comment est-ce qu'elle s'y emploie pour tout ça ?
Alors, son service passe par une multitude de petits gestes. Un coup de main à l'équipe cuisine, aller chercher un retraitant ou un bénévole à la gare ou à l'arrêt de bus, le conduire à sa chambre, lui indiquer où trouver la crypte ou un oratoire. Mais c'est aussi se tenir à l'écoute des attentes plus profondes de ces chercheurs de Dieu qui viennent vivre une expérience spirituelle forte.
Et qu'est-ce qui l'a amené à un tel choix de vie, Véronique ?
Alors elle est marseillaise et elle rêvait, bien avant la crise du Covid, je précise, de changer de vie. Elle aspirait à vivre dans un habitat partagé et son choix de venir à Biviers pour 3 ans au service est très intéressant car elle se forme en parallèle à la permaculture, envie de se reconvertir dans le maraîchage et à Saint-Hugues où le parc immense s'étend dans un cadre magnifique en pleine nature, le travail ne manque pas dans ce domaine. Claire est aussi missionnée pour l'entretien et le développement du jardin aromatique et du potager et impliquer les retraitants et les bénévoles qui souhaitent mettre aussi les mains dans la terre, contribue à prendre soin de la création. S'adapter ainsi à leurs attentes, c'est aussi une manière de cultiver le lien et l'accueil.
Merci beaucoup Véronique Durand pour toutes ces belles chroniques depuis maintenant 2 ans dans Je pense donc j'agis. On peut bien sûr retrouver le magazine La Vie sur le site lavie.fr. Il est 10h24, on continue cette émission sur les sentiers de randonnée. On est en marche ce matin, on marche tranquillement sur les sentiers avec notamment Gabriel qui vient de nous rejoindre au 04 72 38 20 23. Gabriel qui nous appelle appelle dans l'Ain. Bonjour.
Oui, bonjour. Don Gabriel, dans l'Ain. Voilà, moi, je suis pas un randonneur,
de toujours.
Enfin, je randonne quand même pas mal, et notamment dans le Jura. Et j'ai donc deux remarques à faire à propos des forêts.
Allez-y.
La première, c'est que bon, on trouve énormément d'arbres déracinés qui des fois encombrent les chemins. Et ça, c'est souvent, je pense, dû au réchauffement climatique. Je ne sais pas si vos invités ont une idée sur la question. Et puis alors, bon, j'ai un peu une dent quand même contre les forestiers, parce que à certains endroits, lorsqu'ils font leurs travaux de débardage de bois, ils viennent avec des engins qui font des ornières d'une profondeur énorme, je dirais énorme, d'une largeur, et ça vous massacre en chemin, quoi. Sans compter les balises qui finalement partent avec. Alors je voulais savoir un petit peu s'il y avait des contacts réguliers entre les forestiers et les responsables des sentiers de randonnée. Je parle pas spécialement des GR, parce que je crois que ceux-ci, bon, ils y font peut-être plus attention,
oui.
Mais les sentiers un peu moins connus, c'est pas très respectueux, quoi.
Et ben, c'est un point très intéressant qu'on peut aborder dans cette émission. Merci pour votre appel au 04 72 38 20 23. Frédéric Urien, sur le lien avec les forestiers, je trouve ça intéressant. Est-ce que vous en avez dans l'association Louvionnais?
Tout à fait. Je voulais répondre à la première question qui était de savoir pourquoi les arbres se déracinaient.
Oui.
Et en fait, le changement climatique fait qu'on a de plus en plus fréquemment des grosses tempêtes. Et on se retrouve parfois avec des milliers d'arbres qui sont déracinés et qui encombrent les chemins. Et c'est des opérations qui sont très difficiles à mener parce qu'on doit intervenir partout. Et quand vous avez un arbre qui a 50, 100 ans, qui est déraciné avec parfois des risques, hein, ils sont suspendus, voilà, c'est des interventions qui peuvent être lourdes et compliquées. Et puis on a d'autres problèmes. Par exemple, on a le bostriche. Alors je sais pas si vous connaissez.
Non.
C'est voilà, il y a certains arbres qui sont attaqués par le bostriche qui se glissent sous l'écorce et qui les tuent. Et donc on a comme ça des grands massifs forestiers d'arbres morts qui finissent par tomber. Et puis effectivement après des fois il y a des zones, alors c'est un peu particulier chez nous, où on a très très peu de terre, donc les arbres vivent avec des racines de surface et dessous il y a du rocher, et avec le réchauffement climatique le rocher chauffe davantage et ça tue les arbres parce que les racines se retrouvent avec un terrain extrêmement chaud qui les tue. Et donc toute cette végétation qui est déracinée par le vent ou par les conditions climatiques ou par la maladie, ben, ça vient encombrer les chemins. Et alors après les forestiers, il y a les forêts publiques qui sont gérées par l'ONF et donc on a des contacts avec l'ONF, on discute avec eux, il y a des échanges et puis ils nous connaissent bien, ils connaissent bien les chemins de randonnée. Et puis il y a des grandes, grandes forêts privées et on n'a aucun contact. Et donc dans ces cas-là, ben, il faut essayer de rentrer en contact avec ces sociétés. Mais moi j'ai de la famille vers Toulouse, il y a des grands massifs forestiers qui ont été achetés par des banques et qui donne à exploiter à des sociétés, le bois est acheté par la Chine.
Ah oui.
Et les entreprises qui exploitent le bois ne sont pas localisées en France, et ils vont comme ça couper des grandes, grandes zones de forêt, et il n'y a pas de contact possible, c'est très compliqué. Hein,
ça,
ils sont chez eux, ils ont autorisé le passage à chemin de randonnée, les gens y vont librement, mais le jour où ils décident de couper les arbres, ils sont chez eux, ils font ce qu'ils veulent.
Ouais,
c'est compliqué d'intervenir dans tous les cas. Ouais.
C'est un vrai sujet. Jacques Pernin, vous confirmez pour l'association Sentier Nédan?
Ben disons que oui, je peux confirmer que des problèmes peuvent survenir. C'est pas à nous, ça nous est pas arrivé. Parce que disons, on a une bonne partie de notre activité qui est en basse et pleine et moyenne montagne. Et l'autre partie est assez escarpée, donc on a peu eu à rencontrer des problèmes comme ça. Il y a un point très important que moi j'aimerais signaler, c'est que nous, notre règle numéro un, c'est de travailler sur les zones publiques, c'est-à-dire que on évite les privés. Et donc c'est vrai que si un jour on pouvait avoir un problème de ce genre, eh ben on traiterait avec la commune concernée pour refaire réhabiliter un chemin qui a été défoncé, parce que j'en ai vu, mais donc nous on n'a pas eu trop de problèmes de ce côté-là.
Jean-Claude Marie, on avait fait une émission il n'y a pas très longtemps sur RCF d'ailleurs, sur le goût pour la marche, ce que les randonnées apportent à celles et ceux qui ont cette chance de pouvoir déjà aimer marcher, hein, aimer se rendre sur certains chemins. Parfois, il peut y avoir comme ça des petits soucis, des petits conflits. Comment vous, à la fédération, vous les gérez ces sujets importants, les liens avec les forestiers, les liens avec les propriétés privées?
Oui, vous mettez le doigt typiquement sur un problème majeur, parce que en fait, dans les 28 millions que je vous ai cités tout à l'heure, tous les gens ne sont pas des randonneurs aguerris qui savent, qui ont un comportement adapté, qui savent que finalement sur un sentier privé, on n'a pas forcément le droit d'y aller, etc. Ce que on peut qualifier de néo-randonneurs, c'est un public plus jeune, branché, sportif, qui va chercher l'aventure, donc ça va pas trop le gêner de partir dans des espaces privés. Et là, dans les exemples qui ont été cités, avec des forêts qui sont pas toujours, je dirais, dans le domaine public, oui. Il y a un vrai souci. Alors je voudrais quand même, bon, ça c'est un vrai souci, mais je voudrais dire aussi que par rapport aux incidents, s'il y a des arbres qui sont en travers, s'il y a des parties de sentiers qui sont coupées, il y a depuis un certain nombre d'années un outil qui s'appelle Suricate. Comme le petit animal là qui surveille, qui se met droit sur son derrière pour surveiller, voilà. Et cet outil est là pour signaler officiellement dans une organisation qui est au niveau national, avec des retombées locales bien sûr, toutes les anomalies, soit les conflits d'usage, soit parce que souvent il y en a. Soit éventuellement des arbres arrachés qui empêchent de passer, soit des arbres qui sont prêts à tomber sur des randonneurs de passage, etc. Enfin, toutes les anomalies. Et je voudrais le mettre en avant parce que c'est quelque chose d'important que l'ensemble des randonneurs participent à ces signalements, parce que même si on est je ne sais combien de bénévoles sur le terrain, les premiers qui peuvent signaler des anomalies comme ça, c'est bien le randonneur lui-même. Oui. Mais ça mérite vraiment d'être mis en avant.
Allez, on va marquer une courte pause dans Je pense donc j'agis. Vous faites comme Marie-Françoise et Gabriel. Vous venez à l'antenne au 04 72 38 20 23 pour nous parler des sentiers de randonnée que vous connaissez. Dites-nous s'ils sont bien entretenus, si vous avez déjà participé un jour à l'entretien de certains sentiers ou en tout cas au balisage. 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Qu'on peut gagner gros, qu'on a le ciel dans une goutte d'eau. On cherche tous un bon destin. La vie s'écoule entre nos mains. La joie, la peine, notre chemin. Traverser la vie sans billet de train. Traverser la vie sans billet de train. Sur la route, sur la route. Solitude, la mauvaise terre, ça fait rêver la liberté. Jurer qu'on ne s'en ira pas, quand on aura du bien, tu vois. Et ce bonheur qui nous traverse, pour un simple morceau de pain. Si tu as faim, prends le mien. Sur la route, sur la route. Sur la route, sur la route, sur la route. Si c'est pas l'Amérique, ça y ressemble bien. fois j'aimerais être un oiseau, pouvoir cracher le plus haut, voir les maisons et les campagnes, et mieux leur tourner le dos. On ira vendre nos sacs de roses, on prendra le train du matin. Pas la vengeance, de la justice, pas sur la route.
Raphaël et Jean-Louis Aubert pour vous accompagner sur RCF sur la route.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Avec nos trois invités dans cette émission, Jacques Pernin, vous êtes le président de l'association Sentier Nédan, Frédéric Urien, vous êtes le président de l'association Louvionnais et Jean-Claude Marie, vice-président de la Fédération française de la randonnée pédestre. On a beaucoup parlé de cette notion de balisage dans depuis tout à l'heure. Jean-Claude Marie, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'on entend par le balisage ?
Le balisage, c'est traduire sur le terrain, guider le randonneur qui n'aurait pas forcément de carte en main, qui serait perdu. Guider le randonneur autour pour suivre un sentier. Alors les sentiers, c'est les GR et GRP, mais des sentiers de petite promenade et randonnée. Mais il faut bien voir que le balisage est quelque chose d'essentiel. D'abord, il doit être exact par rapport à la carte, par rapport, il doit guider. Donc, il y a un certain nombre de règles un peu élémentaires, basiques, enfin, pas si élémentaires que ça, parce qu'il y a des marques qui indiquent qu'on ne peut pas tourner à droite, qu'on doit tourner à gauche, que là on s'est trompé de chemin avec des croix, etc. Il y a des dimensions normalisées, il y a des peintures qui doivent respecter des problèmes d'environnement, parce que c'est pas n'importe quelle peinture qu'on peut mettre. On n'a pas le droit, par exemple, d'utiliser des vis sur dans les arbres, oui, etc. Il y a vraiment des règles, savoir-faire. Et que les gens ne connaissent pas forcément. Et en fait, c'est pour ça d'ailleurs que nos baliseurs sont formés, sont accompagnés dans un premier temps pendant un an pour voir si ça va marcher. Ensuite, ils sont formés, qualifiés, etc. Ils ont un diplôme qui leur permet de se dire je suis baliseur à la Fédération française de randonnée. Et c'est important parce que il y a tout un environnement de sur ces sentiers qui n'est pas forcément très connu, et il n'y a pas simplement le fait du coup de peinture.
Oui. Jacques Pernin, ça fait partie également des missions de l'association Sentier Nédan, hein, de baliser pour ce que vous dites faciliter le cheminement.
Bien sûr, et je rejoins Jean-Claude, c'est essentiel. On voit, pour compléter ce qu'il a dit, nous on s'est référencé finalement à la charte de la Fédération française pour avoir une correspondance, on va dire, nationale. Et pour détailler un peu, il y a deux types, si vous voulez, on rencontre deux types d'informations. La principale, c'est les lames de direction, c'est-à-dire c'est celle qui indique à la fois la direction, le lieu où on se trouve et la destination, avec les distances, éventuellement les altitudes et le temps de pour rejoindre le point suivant. Nous, on a adopté d'entrée un système de balisage par carrefour, c'est-à-dire qu'à chaque carrefour de sentier ou de route, on trouve une balise avec une lame de direction ou deux lames de direction, puisqu'on balise dans les deux sens. Et puis autrement, entre ces deux, on va dire, lames de direction, on a le balisage en pictogramme avec, comme l'a expliqué Jean-Claude, à gauche, à droite, interdit, etc. Et c'est essentiel, et on retrouve ces informations, en tout cas le balisage principal, on le retrouve sur les fiches de randonnée, sur les plans qui sont utilisables et utilisés par les randonneurs.
On a Jean-Christophe avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Christophe.
Oui, bonjour. Donc moi je vous appelle d'Annecy en Haute-Savoie.
Oui.
Donc moi mon gros problème depuis quelque temps, parce que je suis randonneur et je suis également piéton en ville et puis randonneur dans les forêts. Comme vous savez, en Haute-Savoie on a beaucoup de forêts. Et le problème que j'ai, c'est l'envahissement des vélos tout-terrain qui sont partout maintenant. Et le problème, c'est que apparemment, la plupart du temps, les communes qui sont chargées de gérer certaines portions de bois, ne font pas, ou bien n'ont pas les moyens, sans doute, pour faire respecter les zones où les VTT sont interdits. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que moi, je me suis arrivé souvent. Il y a une belle montagne à côté du lac d'Annecy qui s'appelle le Sebnos, par exemple. Et dans cette montagne, vous avez bien sûr des sentiers de randonnée. Et moi, je me balade souvent dans cette montagne. Et il m'est arrivé souvent dans des tout petits sentiers de 50 cm de large, par exemple. J'entends un grand bruit de feuilles. Alors bon, je suis en train de monter tranquillement, j'entends un grand bruit de feuilles, je me dis, tiens, c'est peut-être un sanglier. Et non, pas un sanglier, c'est un VTT qui me fonce dessus. et vous voyez...
Enfin, ça me fait rire, mais c'est pas drôle, hein, Jean-Christophe.
Oui, alors du coup, je suis obligé de sauter dans un forêt pour laisser passer. Et le problème, c'est que tant qu'il n'y aura pas des accidents graves qui vont être donc occasionnés par des VTT, personne ne va bouger. Alors moi, je suis très étonné que personne, comme bien sûr actuellement c'est la grosse mode de tout ce qui est vélo et tout, personne n'ose parler de ce problème-là. Donc ça c'est une chose.
Un deuxième point.
Alors un deuxième point, c'est que par exemple, ce qui est problématique aussi, toujours par rapport au VTT, c'est que pas loin de chez moi, nous avons un torrent qui s'appelle le Fier, avec un bois autour de ce torrent, facilement accessible. Et alors, depuis quelque temps, il y a une association de vététistes qui viennent dans ce bois. Alors, le bois est autorisé, les communes qui gèrent ce bois autorisent l'accès des vélos à ce bois, sauf que la problématique, c'est que maintenant, avec cette association, ils arrivent à 15 ou 20 dans des tout, il y a des grands sentiers, des petits sentiers, et ils font carrément du marquage au sol avec des peintures fluorescentes, aussi bien sur des galets que sur les arbres, et je trouve ça complètement aberrant. Donc ils ont tous les droits. Et alors vous, quand vous arrivez comme piéton, un petit piéton tranquille dans un petit sentier, pareil, vous retrouvez par une horde de vététistes qui vous arrivent dessus. Voilà, quoi dire, quoi faire.
Eh ben, dis donc, c'est un vrai sujet, ça, Jean-Christophe. Merci beaucoup pour votre appel au 04 72 38 20 23. À qui vais-je donner la parole? Parce que je pense que tous les trois, Jacques, Frédéric et Jean-Claude, vous avez un avis sur la question. Je commence avec vous, Frédéric Urien. Comment on arrive à faire cohabiter?
En fait, je connais un petit peu le problème du Sebnos. Et donc, notre interlocuteur a oublié de donner un détail, c'est que la ville d'Annecy a mis en place des bus qui permettent très régulièrement de monter les vététistes au sommet du Sebnos, pour qu'ils puissent redescendre. Et donc, quand vous êtes quelqu'un d'Annecy, vous allez monter une fois, deux fois, trois fois, et puis vous redescendez par les chemins balisés pour les VTT, et puis comme c'est ouvert tous les jours depuis de nombreuses années, vous allez explorer de nouveaux chemins pour avoir de nouvelles aventures. Et ça génère des flux énormes de personnes qui montent au sommet du Sebnos et qui descendent en VTT. Et donc le problème vient du nombre de personnes. Les conflits d'usage, quand vous rencontrez un VTT, ça pose aucun problème. Quand vous en rencontrez 1000, c'est tout de suite, il y a un souci. Et je pense que là, localement, la collectivité, elle est au courant du problème, mais il n'y a peut-être pas assez de pression sur elle pour qu'elle trouve une solution. La solution, c'est de vraiment matérialiser les endroits où les VTT se passent, là où il y a les piétons, et de séparer les usages.
Et ça, c'est possible, Jean-Claude Marie ?
Alors, c'est justement ce que j'évoquais tout à fait en début de réunion. Nous avons une mission nationale au niveau de l'Agence nationale de la cohésion des territoires pour nous emparer du sujet de la cohabitation.
Oui.
Des flux. On dit surfréquentation, c'est pas très élégant, donc on préfère parler de flux, mais il est essentiel que, compte tenu de la variété du nombre de pratiquants outdoor de tout poil, qui vont chercher l'aventure, il faut effectivement réfléchir à la cohabitation. Et donc c'est quelque chose d'essentiel, en prenant en compte également les problèmes d'environnement, parce que quand vous avez 1, 2, 3 randonneurs qui marchent sur un chemin, bon, c'est on dérange pas trop la faune, la flore, etc. Le chemin, il est relativement facile à entretenir. Mais quand on voit des engins qui vont de plus en plus vite, etc., et en nombre important, il y a une dégradation qui apparaît. Et en fait, il faut vraiment une politique. Alors, il y a des endroits où en fait on a été amené à gérer les inscriptions. On peut, par exemple, dans les calanques, on peut plus faire ce
qu'on
veut.
Il y a des limites.
Voilà.
Ouais.
Tout à fait. Voilà. Il faut s'inscrire avant, etc. Alors, il y a bon nombre mais ça, c'est des initiatives, parce que vraiment, on est allé trop loin. Mais je crois que il est essentiel que les collectivités soient sensibilisées à ça, et pas simplement à mettre à disposition des moyens de transport pour attirer toujours plus de personnes. Il faut qu'on travaille sur un développement touristique qui tient dans le temps, qui soit durable. Et en fait, là, on n'est pas encore à ce niveau-là, et c'est pour ça que l'État nous a confié une étude au niveau national. Voilà, et ça, c'est important de le signaler. Merci du témoignage que vous avez apporté.
Ah bah vous pouvez vous assurer que nos auditeurs vont toujours pointer du doigt les sujets importants en ce qui concerne les sujets. Et heureusement qu'ils sont là également au 04 72 38 20 23. C'est marrant parce que le vélo, on a fait une émission il n'y a pas très longtemps, on a beaucoup parlé du vélo en ville. Hein. Et là aussi, c'était déjà un sujet un peu pas très sympa, parce que les automobilistes disait, bah ouais, mais les vélos, ils sont partout, c'est hyper dangereux. Et là, on se rend compte, en fait, que c'est un peu partout. Jacques Pernin, c'est un sujet également pour vous, dans l'association Sentier Nédan, ou ça se passe plutôt bien?
Alors, écoutez, c'est le même sujet, donc les Fred et Jean-Claude ont déjà bien fait le tour de la question. Il y a un aspect qui est venu encore aggraver la situation, c'est l'utilisation des vélos électriques. Donc vous avez des gens qui voulaient faire du vélo avant, mais qui le faisaient sur le plat, et puis maintenant ils ont pas peur de monter avec des VTT électriques, de monter en altitude pour faire du vélo. Et la solution, de comme disait Fred, de matérialiser et séparer, c'est très très compliqué suivant les endroits, parce que vous pouvez pas créer plusieurs sentiers pour aller d'un point à un autre en fonction de la configuration du relief ou de la géographie, du privé, du public, etc. Mais c'est vrai que c'est un gros problème. Et puis vous ajoutez l'éternelle question de l'incivilité. Il y a des gens qui respectent rien, puis il y a des gens qui respectent. Et puis la cohabitation, on peut pas l'éviter. Et je crois qu'il faut pas chercher à l'éviter, mais il faut chercher des solutions, comme l'a signalé Jean-Claude. Chercher des solutions avec les collectivités, avec les autorités locales. Mais c'est vrai que c'est un vrai problème.
Bon, on va pas faire toute l'émission sur ce sujet, mais on entend que c'est un point très important. On refera peut-être à la rentrée une émission là-dessus. J'aimerais qu'on revienne sur les GR. Alors, on en a parlé tout à l'heure, Jean-Claude Marie. Les GR, c'est presque une institution pour votre fédération.
C'est
Oui, et en fait, bon, bien sûr, quand on parle des GR, ça fait rêver. Quand on parle du GR20, tout le monde n'est pas capable de faire le GR20, mais tout le monde a entendu parler du GR20.
C'est en Corse, quand... hein, le GR20.
Oui, ouais. Mais c'est en Corse. Le GR34 qui fait le tour de la Bretagne et qui actuellement a trop de monde, les gens se plaignent. Mmh. Il y a le GR340 qui fait le tour de Belle-Île, qui a eu l'année dernière le coup de cœur des Français avec le concours Mon GR préféré. Eh bien, les gens étaient très contents de voir le GR mettre en avant, mais maintenant, en fait, les locaux se plaignent parce qu'il y a trop de monde, que ça part dans tous les sens, etc. Donc, en fait, toute notre difficulté, c'est en fait de mettre en avant des GR, et Dieu sait s'il y en a, des GR qui sont méconnus et pourtant très intéressants. On a par exemple le GR7 qui traverse, qui est en fait la ligne de partage des eaux, qui est un trésor et qui n'est pas connu, et qu'on vient de redynamiser, etc. Mmh. Alors c'est des choses comme ça qu'on essaye de mettre en avant avec des topo guides, avec des publications qui permettent de donner une petite inspiration aux randonneurs qui ont envie de changer d'air, quoi.
GR, on rappelle, ça veut dire sentier de grande randonnée. Il y en a de
grande randonnée.
Voilà, grande randonnée. Ça veut dire que finalement, vous travaillez un peu ensemble tous les trois, Frédéric Urien.
Ah oui, moi je travaille pas directement avec les dirigeants de la fédération, mais localement, les personnes qui sont responsables au niveau départemental ou des associations, je les fréquente quotidiennement. Et puis, j'ai pas d'association sœur localement qui fasse la même chose que nous, mais voilà, peut-être qu'on ira à Nédins un jour donner un coup de main.
J'aimerais qu'on revienne sur la construction des sentiers de randonnée. On a Jean-Luc qui nous a envoyé un message tout à l'heure. Il se demandait, parce qu'il nous dit, lorsqu'il existe des livrets qui rassemblent les différents chemins de randonnée pour un territoire, il s'agit souvent de chemins de randonnée qui prennent une demi-journée, voire une journée sur plusieurs dizaines de kilomètres. Ne serait-il pas possible qu'il existe aussi des petits livrets pour des chemins de randonnée de 1 heure ou de 2 heures pour des personnes qui marchent, on va dire, autrement? Jacques Pernin, ça, vous avez ça en tête quand vous travaillez sur la construction de sentiers? Ou en tout cas de chemins de randonnée?
Oui, bah disons, les chemins, nous, on a, disons, si Jean-Luc vient en vacances à Nédans, il aura l'avantage d'avoir 7 à 8 itinéraires qui partent du village de Nédans. Le plus petit fait 1,4 km, donc c'est difficile de faire plus court. Et puis le plus long va faire 17 ou 18 km avec 600 mètres de dénivelé. Donc c'est un peu l'esprit qui nous a animés quand on a démarré l'association, parce qu'on veut rester une petite entité qui travaille assez localement, puisqu'on fait tout de A à Z, y compris l'entretien, y compris quand il y a une tempête, les arbres tombent, on intervient à la demande des communes, on intervient nous-mêmes sur le terrain pour couper les arbres et refaire les passages. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas ce problème de GR, bien que dans notre commune, vous avez le GR65, qui est le Saint-Jacques-de-Compostelle, qui va de Genève au Puy-en-Velay, qui traverse notre commune, et on a le Balcon du Léman. D'ailleurs, un de nos itinéraires, il en emprunte un petit morceau. Donc on a un maillage qui est assez intéressant et qui va encore s'agrandir d'ici 2-3 ans, mais qui peut donner des intérêts de court et de très très facile, de familial à un petit peu sportif.
On a parlé de beaucoup de choses dans cette émission. On a parlé du balisage. Ce que j'ai retenu, c'est aussi pas de clous sur les arbres. On a parlé de l'entretien des sentiers. On a parlé de la cohabitation entre les marcheurs et puis les vététistes, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça. Moi, derrière tout ce que vous avez pu dire dans cette émission, je retiens une notion, on n'en a pas beaucoup parlé, et pourtant j'ai l'impression que c'est quand même au cœur de vos missions, c'est le respect de l'environnement, Jean-Claude Marie.
Oui, et justement, nous avons, ça c'est vraiment le on ne peut pas imaginer de développer des sentiers si on ne prend pas en compte ces aspects-là. Mmh. Donc en fait, il y a une cellule, une commission nationale environnement qui effectivement s'intéresse à tous ces aspects d'environnement, mais simplement un petit zoom sur les chemins ruraux. Les chemins ruraux, c'est un trésor. C'est les chemins qui sont aujourd'hui, qu'on peut emprunter à pied, etc. Et on voit disparaître régulièrement des chemins parce que ils sont pas empruntés ou parce que, ma foi, on veut les goudronner parce que c'est plus facile à entretenir, etc. Et on assiste à une érosion de ces chemins ruraux qui sont en fait un petit trésor qu'il faut garder absolument partout, et donc ça fait partie de nos combats pour essayer de faire du lobbying, pour faire prendre conscience aux collectivités qu'il faut absolument préserver ces chemins et bien sûr lié à ça les problèmes d'environnement, mais ça c'est dans nos gènes, ouais. C'est dans nos gènes, quoi, voilà.
Jacques Pernin, vous confirmez ?
Oui, oui, tout à fait. Et il y a encore un autre paramètre, c'est que nous, on a une zone quand même assez grande agricole, et vous avez des chemins qui étaient très sympas et bucoliques, qui ont disparu parce que le nombre de fermes a diminué, donc les exploitations deviennent de plus en plus grandes, avec des engins de plus en plus gros. Et c'est vrai qu'il y a des fois quelques chemins qui sont labourés et qui sont devenus terres arables. Après on trouve des solutions, parce qu'il faut toujours négocier et discuter, parce que tout le monde a le droit de participer et d'avoir accès un peu partout, mais on trouve toujours des solutions.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces échanges tout au long de l'émission. Jean-Claude Marie, j'aimerais juste signaler la sortie prochainement, c'est pas tout de suite, d'une application mobile développée par la Fédération. Marando, c'est pas pour tout de suite, mais bientôt.
C'est pour la rentrée sportive. En fait, c'est une application fédérale. La rentrée sportive, c'est-à-dire, c'est au mois de septembre.
Oui, voilà. Rentrée scolaire, on peut dire aussi.
Voilà, rentrée scolaire. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est de mettre en avant uniquement des sentiers, qualifiés. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'applications mobiles. Et les applications mobiles qu'il y a, comme c'est des applications qui intègrent des contributions personnelles, etc. On assiste à toutes les dérives possibles. Mmh. Et c'est un vrai problème pour les collectivités et pour les utilisateurs.
On en reparlera. Je me permets de vous couper puisqu'on arrive à la fin de cette émission. On en reparlera de cette application donc à la rentrée sportive ou scolaire. Hein. C'est le meilleur terme. Merci à tous les trois. Jacques Pernin, Frédéric Urien, Jean-Claude Marie. On mettra les liens vers vos associations respectives sur rcf.fr, l'association Sentier Nédan, Louvionnais et puis la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Merci à toute l'équipe qui a permis la réalisation de cette émission. On se retrouve demain. On parlera du repos pour les vacances, on en a besoin, et puis également de l'art de la sieste. Je vous laisse tout de suite avec mes amis qui prennent le relais à 11h.